France Musique. Musicopolis. Septembre 1737, Paris. Article du Mercure de France, octobre 1737. Le 27 septembre, l'Académie royale de musique exécuta, après l'opéra de Cadmus, une pièce de symphonie nouvelle de M. Rebelle, le père, intitulée « Les éléments », dansée par les demoiselles Salé et Mariette et par les sieurs Dumoulin, Dupré, Malter et Javillier. Ce divertissement, qui a été parfaitement bien exécuté et très applaudi, est orné d'une décoration qui caractérise les éléments et fait grand effet. Voici longtemps déjà que le public de l'Académie royale de musique connaît « Monsieur Rebelle le père », comme l'appelle le Mercure de France. Il a 71 ans, sa carrière est bien établie. Depuis 1714, depuis 23 ans donc, il est le batteur de mesure, c'est-à-dire le chef d'orchestre, de l'opéra. C'est lui qui dirige de son violon les 46 musiciens. Jean-Ferry Rebelle, Rebelle le père, est ainsi nommé pour ne pas le confondre avec son fils François, virtuose et compositeur aguerri et reconnu déjà en 1737. Notez qu'on aurait pu aussi appeler Jean-Ferry Rebelle le fils, puisque son père Jean était déjà musicien. Mais bref, une fois posé que Jean-Ferry se situe entre son père et son fils, faisons plus ample connaissance avec lui. Le public parisien de 1737 connaît donc Jean-Ferry Rebelle comme batteur de mesure de l'Académie royale de musique, c'est-à-dire de l'Opéra de Paris. Mais ce n'est pas là son seul titre. Il fait partie des 24 violons du roi et on reconnaît qu'en tant que professeur, il est le seul à pouvoir former de jeunes recrues au niveau d'excellence qui était celui du fondateur, Jean-Baptiste Lully. Rebelle a aussi donné il y a longtemps sur cette même scène un opéra, Ulysse. Et puis, il est compositeur de la chambre du roi et symphoniste de la chapelle. Jean-Ferry Rebelle a de nombreux titres officiels qui montrent bien dans quelle reconnaissance il est tenu. Ce qui nous importe aujourd'hui n'est certainement pas écrit sur sa carte de visite. Il est tout simplement l'inventeur d'une nouvelle forme musicale, la symphonie de danse. Une symphonie de danse, c'est tout simplement un morceau de musique instrumentale, sans aucun livret, sans aucune parole, dans lequel la musique se suffit à elle-même. Sur la scène de l'opéra, c'est d'une folle nouveauté, et sur laquelle on danse. Thank you. 1737, donc, le public de l'Académie royale de musique a applaudi la nouvelle symphonie de danse de Jean Ferry Rebel. Musicalement, le morceau se présente comme une suite de danse et de pièces de caractère. Les deux premières que nous venons d'écouter sont une lourde et une chaconne. Nous n'avons malheureusement aucune relation de ce qui se passait sur la scène. Nous savons seulement, grâce au Mercure de France, les noms des danseuses et des danseurs, les meilleurs de l'époque, qui l'ont parfaitement bien exécuté et qui ont été très applaudis. La seule précision est que ce divertissement est orné d'une décoration qui caractérise les éléments et fait un grand effet. Et c'est tout. Tout de même, pour alimenter notre imagination, Jean Ferry Rebel a parsemé sa partition de précieux indices. Par exemple, en tête du troisième morceau « Ramage », il a noté « l'air ». Ramage est confié au violon et aux petites flûtes et représente donc l'air. Et le morceau suivant s'intitule Rossignol avec flûtes et violons. Voilà qui indique sans doute au maître de ballet une danse légère et sans doute le décor reprend-il des éléments de forêt ou de bosquet dans lesquels peuvent volter quelques oiseaux. Donc, si je reprends un peu tout ça, la symphonie de danse conçue par Jean Ferry Rebel ne comporte ni livret, ni paroles, ni arguments, mais tout de même, elle représente les éléments grâce au décor et surtout grâce à la musique, qui est d'une certaine manière imitative. L'esthétique de cette époque, nous sommes dans la première moitié du XVIIIe siècle, demande en effet que la musique imite la nature. En 1719, l'abbé Dubos écrit qu'en dehors des morceaux chantés qui s'appuie sur des mots, la musique a voulu faire des imitations de tous les bruits qui sont les plus capables de faire impression sur nous lorsque nous les entendons dans la nature. La musique ne se sert que des instruments pour imiter ces bruits et nous appelons communément ces imitations des symphonies. La vérité de l'imitation d'une symphonie consiste dans la ressemblance de cette symphonie avec le bruit qu'elle prétend imiter. Il y a de la vérité dans une symphonie, composée pour imiter une tempête. Lorsque son chant, son harmonie et son rythme nous font entendre un bruit pareil au fracas que les vents font dans l'air et au mugissement des flots qui s'entrechoquent ou qui se brisent entre des rochers. Pour imiter les bruits de la nature, le musicien baroque dispose d'un vaste éventail de codes qui sont alors compris de tout un chacun. D'ailleurs, Rebel nous le dit lui-même dans l'avertissement qu'il a glissé avant la première page de sa partition. Il écrit d'abord « Les éléments peints par la danse et par la musique m'ont paru susceptibles d'une variété agréable, tant par rapport aux différents genres de musique que par rapport aux habits et aux pas des danseurs. » Puis il ajoute « L'introduction à cette symphonie était naturelle. C'était le chaos même, cette confusion qui régnait entre les éléments avant l'instant où, assujettis à des lois invariables, ils ont pris la place qui leur est prescrite dans l'ordre de la nature. » Ah oui, c'est que je ne vous ai pas dit. 6 mois après la première des éléments de Rebel, l'Académie de musique faisait entendre une nouvelle pièce, Le Chaos, qui allait bientôt trouver sa place en introduction de la symphonie de danse. J'imagine que les premiers auditeurs du Chaos de Jean Ferré Rebel ont dû ressentir un choc à l'écoute de cette musique dissonante et assourdissante. Tout ce que nous en dit le Mercure de France, c'est que la pièce passe de l'aveu des plus grands connaisseurs pour un des plus beaux morceaux de symphonie qu'il y ait en ce genre. Du chaos en introduction de ces éléments, Rebel nous donne toutes les clés d'écoute. D'abord, il ménage des pauses dans le discours qui correspondent à différents chaos. Il y en aura 7 qui correspondent sans doute aux 7 jours de la création du monde décrite dans la Genèse. Nous en avons déjà passé 3. Et puis dans l'avertissement, le compositeur nous informe des codes musicaux qu'il utilise. Pour désigner dans cette confusion, écrit-il, chaque élément en particulier, je me suis asservi aux conventions les plus reçues. La basse exprime la terre par des notes liées ensemble et qui se jouent par secousses. Les flûtes, par des traits de chant qui montent et qui descendent, imitent le cours et le murmure de l'eau. L'air est peint par des tenues, suivies de cadences que forment les petites flûtes. Enfin, les violons, par des traits vifs et brillants, représentent l'activité du feu. Ces caractères distinctifs des éléments se font reconnaître, séparés ou confondus, en tout ou en partie, dans les diverses reprises que j'appelle du nom de « chaos » et qui marquent les efforts que font les éléments pour se débarrasser les uns des autres. Au 7e chaos, ces efforts diminuent à proportion que l'entier débrouillement approche.
Thank you.
Donc, tous les éléments qu'on entend dans Le Chaos de Rebel sont clairement décrits dans son avertissement. Ce sont en quelque sorte les clichés habituels, sans aucune idée péjorative, de la musique baroque. Mais il ne s'arrête pas là. Il poursuit ainsi l'avertissement. Cette première idée m'a mené plus loin. J'ai osé entreprendre de joindre à l'idée de la confusion des éléments celle de la confusion de l'harmonie. J'ai hasardé de faire entendre d'abord tous les sons mêlés ensemble, ou plutôt toutes les notes de l'octave réunies dans un seul son. Ces notes se développent ensuite en montant à l'unisson dans la progression qui leur est naturelle. Et après une dissonance, on entend l'accord parfait. J'ai cru enfin que ce serait rendre encore mieux le chaos de l'harmonie si en me promenant dans les différents chaos sur différentes cordes, je pouvais sans choquer l'oreille rendre le ton final indécis jusqu'à ce qu'il revînt déterminé au moment du débrouillement. Composé alors qu'il a 71 ans, ce « Chaos » de Jean-Ferry Rebel sera sa dernière œuvre. Curieusement, les musicologues n'ont pas trouvé de traces de reprise de l'œuvre dans son intégralité. Catherine Sessac, qui a consacré un livre aux musiciens, se demande même si le Mercure de France n'est pas un peu optimiste en nous relatant son succès. En fait, le « Chaos » avait largement de quoi choquer les oreilles de 1738. Pourtant, la symphonie de danse qui suit et qui fait le déroulement des éléments proprement dits, que nous avons commencé à écouter tout à l'heure, avait de quoi rasséréner les esprits. Je reprends le fil avec les deux tambourins, danse particulièrement à la mode à cette époque.
Thank you.
Comme la plupart des œuvres de ce début de XVIIIe siècle, Les éléments de Rebelle comportent une dédicace. Celle-ci est adressée au prince de Carignan et nous dit beaucoup sur son auteur. Monseigneur, c'est par les ordres et sous les auspices de votre Altesse Sérénissime que j'ai entrepris la symphonie nouvelle que j'ai l'honneur de lui présenter. Quel motif plus puissant aurait pu m'animer ? On ne commande point au génie. Il est et veut être indépendant. Mais il peut trouver sa source dans le désir de plaire à votre Altesse Sérénissime. C'est de ce seul désir, Monseigneur, que j'ai emprunté des forces pour rentrer dans une carrière que j'avais abandonnée. Je suis avec respect, Monseigneur, de votre Altesse Sérénissime, le très humble et très obéissant serviteur, Rebelle. La dernière pièce des éléments de Jean-Ferry Rebelle, Les musiciens du Louvre, dirigé par Marc Minkowski. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolm pour la documentation et le site, Cédric Chatelus pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.